Si je parle de mythes, c'est parce que ce ne sont que des on-dit sans preuve tangible. Et comme pour tous les mythes, ses contours sont flous. Il est difficile de démêler le vrai du faux, de savoir précisément où la légende se termine et où l'histoire commence. En tout cas, une chose est sûre, l'inconnu de la scène a réellement existé, tout comme son masque mortuaire, dont le moulage le plus ancien est daté de 1902. Alors, pour faire toute la lumière sur cette affaire, il faut remonter le fil du temps. Si le moulage date du début du XXe siècle, la jeune noyée, elle, est bel et bien morte au XIXe. Je vous parlais plutôt de ses cheveux, séparés par une raie au milieu. Eh bien, cette coupe, c'est ce qu'on appelle une coiffure en bandeau raide, typique du XIXe siècle, souvent assimilée à une certaine forme d'austérité ou de sévérité. C'est donc en partie sa coiffure qui nous permet de dater l'existence de l'inconnu de la scène au XIXe siècle, et non au XXe. Et la nuance est importante, car le XIXe siècle explique l'environnement dans lequel peut naître une légende telle que celle qui nous intéresse aujourd'hui. En France, il s'agit tout simplement d'une période de fascination pour tout ce qui a trait à la mort. Et cette attirance pour le macabre traverse tous les pans de la société. Des arts aux sciences, en passant par la médecine et le journalisme. Pour mieux comprendre cette passion funèbre, il faut se remettre dans le contexte. L'Hexagone connaît une grande crise politique avec une succession de régimes. D'abord, le premier qui voit le retour du système monarchique, avant de laisser place à la Deuxième République, qui ne durera qu'une année. Avant le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, instaurant le Second Empire. Et puis, le gouvernement révolutionnaire de la Commune de Paris. Et enfin, la Troisième République. À moins que l'on puisse dire, c'est que le pays est en proie à une profonde instabilité politique. Toutes ces tentatives de régime avorté, ces révoltes écrasées par des exécutions massives, mais aussi la guerre franco-allemande de 1870 sont la preuve d'un siècle placé sous le signe de la violence qui nourrit un imaginaire glauque et morbide. Rappelons qu'à cette époque, les exécutions sont encore publiques. Le peuple français se passionne pour ce qu'il considère alors comme un spectacle populaire. Au même moment, la médecine est en plein essor. On étudie l'anatomie, la décomposition des corps, mais aussi les maladies mentales. Pour ce qui est de la culture, c'est évidemment le mouvement, mais aussi les maladies mentales. Pour ce qui est de la culture, c'est évidemment le mouvement romantique qui prédomine au XIXe siècle. Mais ce romantisme français, influencé par ses homologues allemands et anglais, est assez sombre. Le fantastique et l'étrange sont à l'honneur. Les thèmes de prédilection sont la mort, la mélancolie et l'horreur. C'est ainsi que se popularise toute une esthétique macabre, comme un signe de raffinement et de réjection de la morale bourgeoise conventionnelle. Il faut d'ailleurs noter que c'est à cette période qu'on atteste pour la première fois du terme « fait divers ». C'est plus précisément en 1863 que les mots « fait divers » font leur apparition dans le quotidien parisien « Le Petit Journal ». Cette nouvelle expression dit bien quelque chose de l'époque. La mort n'est plus un tabou, mais un événement comme un autre. Elle est un fait divers, un objet de spectacle et de divertissement. Si la mort fascine, la réalité de ce qu'elle recouvre n'est jamais montrée, car la bienséance ne disparaît pas pour autant. Il est en effet inenvisageable de montrer ce qui n'est pas agréable à l'œil. La mort doit rester présentable. Oh, il y a bien sûr quelques exceptions à la règle. C'est le cas des morts liées à l'histoire avec un grand H. On peut par exemple représenter la réalité macabre des massacres religieux historiques, ou bien celle issue de la mythologie grecque ou romaine. En d'autres termes, la mort morbide est acceptée lorsqu'elle documente une réalité lointaine ou une légende ancienne. Mais lorsqu'elle est, disons, contemporaine et proche, elle est embellie, magnifiée. Dans toutes les représentations de la mort au XIXe siècle, on ne montre donc pas le teint blafard ou les corps en décomposition. Les personnes décédées sont embaumées pour retarder la décomposition naturelle. L'objectif est de conserver les corps pour les faire ressembler le plus possible à un corps en vie. C'est pourquoi les cadavres sont bien habillés, leur visage bien maquillé et leurs cheveux bien coiffés. Quelque part, cette représentation de la mort ressemble davantage à des personnes endormies et apprêtées qu'à des personnes sans vie. Pour revenir à notre histoire d'inconnu de la scène, son visage colle parfaitement à cette vision sublimée de la mort. Même s'il est censé être celui d'une défunte, il ressemble davantage à celui d'une personne plongée dans le sommeil, fût-il éternel. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce sourire énigmatique ? Si on dispose déjà d'une hypothèse sur sa mort, on ne sait absolument rien de sa vie. Qui est l'inconnu de la scène ? Pour continuer notre enquête, il faut se rendre dans un lieu bien particulier, un endroit à la mode au XIXe siècle. Rendez-vous est pris à la morgue de Paris. Un dimanche comme les autres, dans la capitale française. Les Parisiens et les Parisiennes se baladent sur les quais de la Seine, tout près de l'île de la Cité. Alors que sonnent les cloches de Notre-Dame de Paris, certains décident de poursuivre la promenade jusque dans un curieux bâtiment, situé juste derrière la célèbre cathédrale de Quasimodo. Cet endroit, c'est la morgue du quai de l'Archevêché. Oui, vous avez bien entendu. Et non, vous ne rêvez pas. Au XIXe siècle, c'est un lieu de balade prisé des Parisiens qui s'y rendent comme on pourrait se promener dans un jardin botanique ou dans une ménagerie. Je vous le disais un peu plus tôt, le macabre est à la mode. Mais ce n'est pas la seule raison de la popularité d'un tel lieu que la morgue. En ces temps-là, la Tour Eiffel n'existe pas encore, tout comme bon nombre de musées parisiens. Mais alors, que font ces fameux Parisiens et Parisiennes sur leur temps libre ? Eh bien, lorsqu'ils ne vont pas dans les cafés et les brasseries qui commencent à fleurir dans la capitale, ils se rendent à la morgue. Oui, je sais, ça paraît difficile à croire, mais cette dernière est considérée comme une attraction touristique, un véritable divertissement. Et frisson garanti. Et tout ça pour la modique somme de 0 €. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est loin d'être une activité marginale, au contraire. La sortie à la morgue séduit autant les travailleurs que les bourgeois ou les touristes. L'engouement est tel qu'à son pic de popularité, la morgue de Paris accueille chaque jour plus de 40 000 personnes, assez considérable. Aujourd'hui, ce serait considéré comme glauque et lugubre. Au XIXe siècle, c'est une sortie à la mode. Mais que peut-on bien y faire ? Eh bien, sans surprise, on peut y observer des cadavres. Pas tous les cadavres, bien sûr. Non, seulement ceux qui sont restés anonymes. En fait, la morgue est un lieu d'exposition dans lequel la préfecture de police invite les Parisiens à se rendre pour venir identifier les individus qu'ils pourraient reconnaître. Pour celles et ceux qui se demandent à juste titre à quoi peut bien ressembler un endroit de passage rempli de cadavres, il faut imaginer de grandes et belles vitrines en verre derrière lesquelles sont exposés les corps. Ceux-ci sont allongés sur des tables de marbre noir, légèrement inclinées. Les corps sont nus ou à peine vêtus. Les vêtements des défunts sont suspendus au-dessus d'eux pour aider à leur identification. Pour éviter que les cadavres ne rabougrissent, il faut maintenir la fraîcheur des corps. Pour cela, un mini-système d'arrosage est imaginé. De toute façon, ils sont exposés seulement durant 3 jours, avant que de nouveaux cadavres ne viennent les remplacer. Quelques fleurs peuvent parfois être disposées pour masquer les odeurs putrides. À vrai dire, si on ne savait pas qu'il s'agissait de cadavres, la morgue pourrait presque être une scène de théâtre romantique. Ce décor que le corps de l'inconnu de la scène est exposé au public, dans l'espoir qu'il soit identifié par les passants. Malgré la foule de badauds qui vient s'y balader quotidiennement, notre protagoniste reste anonyme. Elle est un mystère dont personne ne parvient à percer le secret. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Au cours des années, de nombreux journalistes et auteurs ont voulu enquêter sur son identité. Et pour commencer par le commencement, bien souvent l'enquête débute à la mort de Paris. Mais vers la fin du 19e siècle, ce lieu de curiosité morbide est de plus en plus décrié et contesté. En 1907, sa fermeture au public est finalement ordonnée par le préfet de Paris. Mais alors, comment retrouver la trace de l'inconnu de la Seine? Si vous avez bien suivi, vous vous rappelez sans doute que sa légende commence par l'histoire d'un médecin légiste de la morgue qui tombe immédiatement amoureux d'elle et qui décide de conserver une trace de son visage en réalisant un masque mortuaire. En réalité, cet objet est le seul élément auquel se raccrocher. Ce qui différencie l'inconnu de la Seine de tous les Maccabées sans papier retrouvés quotidiennement dans le fleuve de la capitale, c'est sans aucun doute ce masque en plâtre, loin d'être banal. Il est vrai qu'au XIXe siècle, le masque mortuaire est une pratique relativement courante, mais pas pour autant populaire. De tels moulages peuvent être réalisés dans les morgues, mais ils ne sont pas vraiment réservés au commun des mortels. Non, ils sont habituellement l'apanage de grandes personnalités, des artistes, des hommes politiques ou des intellectuels. Parmi les masques les plus célèbres, on peut citer celui de Napoléon Bonaparte, Blaise Pascal, Voltaire, ou même Beethoven ou Chopin. Il est donc surprenant de se dire qu'une noyée anonyme ait eu le droit à son propre masque mortuaire. D'autant plus que, lorsqu'on remonte le fil de l'origine de ce dernier, on atterrit en 1902, aux ateliers Lorenzi. Ces derniers sont les ateliers de moulage les plus en vogue de l'époque. Et là encore, il y a de quoi renforcer l'aura mystérieuse et nourrir le mythe. D'ailleurs, c'est même à partir des ateliers Lorenzi que la légende de l'inconnu de la Seine se répand. Je vous explique. En 10, le poète allemand Rainer Maria Rilke séjourne à Paris. Il est alors le secrétaire du sculpteur Auguste Rodin. C'est lors de ses pérégrinations parisiennes qu'il aperçoit pour la première fois le masque de l'inconnu de la Seine dans la vitrine du mouleur. Le poète est en train d'écrire son premier roman, dont le personnage est comme son double de fiction. Il fait ainsi mention de l'inconnu dans son livre. Le mouleur que je visite chaque jour a deux masques accrochés près de sa porte. Le visage de la jeune qui s'est noyée, que quelqu'un a copié à la morgue parce qu'il était beau, parce qu'il souriait toujours, parce que son sourire était si trompeur, comme s'il savait. Ce masque que le poète observe dans la vitrine des ateliers Lorenzi, ce n'est pas l'original. Alors qu'au début du XXe siècle, le masque de l'inconnu de la Seine rencontre un véritable succès. C'est bizarre de qualifier un moulage mortuaire de succès, mais c'est un fait. Il est ce qu'on peut appeler un véritable best-seller, un objet de décoration qu'on peut retrouver dans de nombreux intérieurs, et notamment dans les salons bourgeois. Quand on en a les moyens, on collectionne les masques mortuaires. Seulement, en général, on affiche des masques de personnalités qu'on affectionne ou qu'on admire. L'inconnu de la Seine est la première anonyme à se frayer un chemin chez les gens. Et c'est pas tout. En plus des moulages en plâtre, son visage est reproduit par milliers sur les cartes postales vendues par les bouquinistes des quais de Seine. Cette frénésie dépasse très vite les frontières de Paris et même de la France. En Allemagne aussi, elle devient un véritable phénomène. Bientôt, c'est toute l'Europe qui expose fièrement ce masque au-dessus de sa cheminée, dans son hall d'entrée ou même dans l'intimité de sa chambre. Au début du XXe siècle, l'inconnu de la Seine transcende son statut d'objet de décoration pour devenir une source d'inspiration et même une véritable muse qui inspire les plus grands artistes de l'époque. J'ai déjà parlé du poète allemand Rilke. Mais il n'est pas le seul à écrire sur elle. L'écrivain Jules Supervielle lui consacre une nouvelle en 1931, tandis que l'auteur de Lolita, Vladimir Nabokov, lui dédie un poème en 1934. Mais celui qui remet définitivement au goût du jour la légende, c'est indéniablement Louis Aragon, qui en fait l'un des éléments centraux de son roman Aurélien. Son personnage, au nom éponyme, dispose d'un masque de la noyée accroché dans son salon. C'est sur ce même masque que le héros du roman projette l'amour bien réel qu'il porte à une jeune femme du nom de Bérénice. Et pour accompagner la sortie de son roman, Aragon demande à l'artiste Man Ray de réaliser une série de clichés surréalistes dans lesquels le masque est mis en scène sous une couette en train de dormir. Ou alors, grâce à la méthode du collage, l'artiste ouvre les yeux de la noyée. En fait, la figure de l'inconnu de la scène permet de transposer tout un imaginaire dans lequel se mélangent le rêve et la réalité. Des thématiques chères au cœur du mouvement surréaliste qui est à son apogée dans la première moitié du XXe siècle et qui remet notre inconnu sur le devant de la scène. Alors comment expliquer la fascination qu'elle exerce ? Le mystère qui l'entoure n'y est pas pour rien, mais il serait un peu simpliste d'expliquer le magnétisme de l'inconnu de la scène en faisant d'elle une nouvelle Mona Lisa au sourire énigmatique. Si elle fascine autant, c'est qu'elle s'inscrit dans un univers érotique macabre où la figure de la femme noyée intrigue et passionne. Le 19e siècle, c'est le siècle du romantisme. Mais pas que. C'est aussi la période où l'on revisite l'œuvre de Shakespeare. La raison de ce regain d'intérêt pour le poète anglais. Pour la première fois, son œuvre est traduite en français par le dramaturge Jean-François Ducis. À partir de ces traductions, de nombreuses représentations d'Hamlet ont lieu au théâtre de l'Odéon à Paris. Dans le même temps, les peintres s'emparent des œuvres de Shakespeare pour représenter des scènes célèbres issues de ces pièces. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Shakespeare a le vent en poupe. Mais quel lien avec notre affaire, me direz-vous ? Eh bien, c'est simple. L'un des personnages de Shakespeare qui inspire le plus les artistes, c'est Ophélie. Vous connaissez peut-être cette peinture d'une jeune femme étendue morte dans une rivière, lui servant de cercueil, au milieu d'une nature verdoyante. Ce tableau du peintre anglais John Everett Millais est la représentation la plus célèbre d'Ophélie. Pourtant, elle n'est qu'un personnage mineur de la pièce Hamlet. Elle est une jeune femme issue de la noblesse danoise, promise au prince Hamlet, qui la pousse d'abord à la folie, puis à la noyade. Mais Shakespeare laisse planer le doute. S'agit-il d'un suicide ou d'un accident ? Rien ne dit. En revanche, une chose est sûre, la légende de l'inconnu de la scène joue sur les mêmes codes que le mythe d'Ophélie. La mort d'Ophélie est idéalisée, tout l'aspect macabre est évincé. Dans l'eau où gît son corps mort, elle est représentée en harmonie avec la nature. Ses cheveux ondulent à la surface telle des algues marines, tout comme le jupon de sa robe et les pâquerettes et les coquelicots qu'elle tient dans sa main. L'image, tout l'aspect macabre est évincé. Dans l'eau où gît son corps mort, elle est représentée en harmonie avec la nature. Ses cheveux ondulent à la surface telle des algues marines, tout comme le jupon de sa robe et les pâquerettes et les coquelicots qu'elle tient dans sa main. L'image de sa mort pourrait presque littéralement être une nature morte. Ne reste que sa beauté et sa douceur comme un idéal féminin stéréotypé. Il en va de même pour l'inconnu de la scène qui, malgré une mort théoriquement brutale, arbore un sourire apaisé, serein. De même, rien ne nous dit qu'elle s'est suicidée, ni même noyée d'ailleurs. Pourtant, sa légende s'est établie autour de ces deux thèmes. Et bien sûr, comme l'époque est au romantisme, il y a toujours en toile de fond une histoire d'amour, qu'il s'agisse d'une histoire avortée pour Ophélie ou d'un amour post-mortem, comme c'est le cas pour l'inconnu de la scène. Des sirènes antiques aux ondines germaines entre l'eau et la mort des femmes. Il y écrit ceci. L'eau est le symbole profond, organique de la femme qui ne sait que pleurer ses peines et dont les yeux sont si facilement noyés de larmes. Il ajoute qu'on associe aussi l'eau au caractère insaisissable, fantasmé de la femme. La femme noyée est donc par nature un mystère envoûtant, ensorcelant. C'est en tout cas ce que les artistes du XXe siècle projettent sur l'inconnu de la scène, sorte de Mona Lisa à laquelle on prête le même destin qu'Ophélie. Sans le mouvement romantique et la redécouverte de Shakespeare, il n'y aurait peut-être jamais eu d'inconnu de la scène. Malgré les explications de la naissance du mythe qui l'entoure, sa véritable identité et son histoire restent un secret impénétrable. Au fur et à mesure des années, la légende est de plus en plus contestée et semble de moins en moins plausible. Ce qui ne l'empêche pas de connaître un second souffle dans l'inconnu de la scène. Véritable identité et son histoire restent un secret impénétrable. Au fur et à mesure des années, la légende est de plus en plus contestée et semble